Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité sur RTL, les secrets d'un bulletin météo. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Louis.
Vous allez bien? Bon, on bah, ose vous présenter hein, pour les deux ovnis qui nous écoutent. Hein. Vous êtes météorologiste, chef du service météo d'RTL. Et vous nous accompagnez évidemment tous les jours, quel que soit le temps. La tempête qui vient de traverser la France s'appelle Gabrielle. Alors mon esprit féministe a noté que c'était une tempête au masculin pour une fois. Donc toutes les catastrophes environnementales ne sont pas au féminin.
Non, exactement. Mais je crois que voilà, il y a la parité là aussi sur les noms hein, qui sont définis tout au long de l'année pour savoir effectivement quel sera le nom de la prochaine tempête et des prochains événements en matière de cyclone aussi. Hein. Il y a toute une liste de noms retenus tout au long de l'année.
Et... Mais qui choisit? C'est le météorologique le plus célèbre de France, Louis Baudin?
Non, au niveau de l'OMM, bah, Emmanuel Bocry qui est là pourra nous en parler aussi. C'est en fait un institut qui s'occupe de récupérer tous les spécialistes et en l'ensemble, ils déterminent les noms une année à l'avance des prochains cyclones et des prochaines tempêtes.
Donc Emmanuel Bocry, vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France, c'est-à-dire que cette tempête, ce Gabriel, il portait ce nom-là dans tous les pays qu'il a traversés?
Il est dans tous les pays d'Europe qu'il a traversés. La prochaine tempête qu'on voit déjà arriver va s'appeler Elena.
Elena.
Donc il y a moitié féminin, moitié masculin, on bascule de
la parité.
Il y en a pour tout le monde.
Mais comment voyez-vous arriver les tempêtes, les cyclones, les épisodes de pluie ou de neige? On part découvrir les coulisses de la météo dans un instant sur RTL.
Attention, je ne vais pas faire le Canadien qui fait le malin parce que regardez-moi, je suis Canadien, je connais la neige. Mais quand même, quand il neige.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pourquoi le pays s'arrête? Est-ce que vous pouvez faire la différence entre de la neige et des mines antipersonnelles? C'est pas pareil.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah là là.
Sur RTL.
Dan Gagnon, qui est donc un Québécois, qui se moque un peu de nous, les Français.
Ils ont un peu raison.
Parce que quand il neige, nous, on panique. On est avec Louis Baudin, le monsieur météo d'RTL, et puis Emmanuel Bocry, ingénieur prévisionniste à Météo France. Parce qu'on va découvrir les coulisses d'un bulletin météo, c'est ce qui nous intéresse. C'est vrai que la tempête Gabrielle vient de passer, elle nous a lâché un peu de neige, il en reste encore un peu. Pourquoi on panique en France quand il y a de la neige? Parce qu'on n'est pas habitué, c'est pour ça?
Il y a plein de choses, il y a plein de raisons. D'abord, c'est une question de culture, c'est une question d'habitude, c'est une question de fréquence. Donc, c'est autant de raisons pour que, effectivement, quand un phénomène, quelle que soit sa nature et sa gravité, est exceptionnel ou très rare, ben, on n'y est pas préparé. C'est quelque chose qui nous surprend, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et effectivement, pour nous, 2-3 cm de neige, eh ben, ça peut être vite catastrophique. Mais pourquoi? Mais ça va arriver peut-être une fois ou deux par an, voire trois fois.
On n'a pas le matériel.
On n'a pas forcément le matériel.
Ce serait pas forcément rentable d'immobiliser un matériel.
On est bien d'accord. D'avoir à disposition le matériel nécessaire pour traiter ce genre de phénomène. Donc alors, certes, on peut être la risée de certains autres pays, comme les pays nordiques, comme ils le font souvent
on
au Canada, mais
ouais.
Sauf qu'eux sont très bien équipés pour ça, ouais. Que ce soit sur les aéroports, sur les routes, les véhicules, leur façon de s'habiller. Du coup, ils ont une anticipation et une fréquence qui justifie d'avoir ça. Alors que nous, bah, ça peut être... En tout cas, on peut se poser la question.
Et Emmanuel Bocry, vous nous disiez à l'instant que bon, bah, Gabriel est passé, mais on voit déjà arriver la suite suivante, qui va s'appeler donc Elena.
Oui.
Combien de jours d'avance avez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? À partir de quand vous pouvez dire « Ah tiens, il y a une tempête qui arrive ».
Alors ça dépend totalement. Il y a des tempêtes qui sont explosives, donc on les voit quasiment que 24 heures avant.
Mm-hmm.
Mais le plus souvent, on a plusieurs jours à l'avance, on voit les prémices d'une dépression qui est en train de se creuser. On a les éléments techniques qui nous montrent qu'on va avoir quelque chose qui va être méchant. Sauf que plusieurs jours à l'avance, on n'a pas la trajectoire exacte. On sait que ça risque de passer, par exemple, sur le nord du pays. Mais savoir si ça passe sur la région parisienne ou sur le nord, c'est pas la même chose. Donc, en général, on affine au fur et à mesure des journées qui passent. On affine la prévision, aussi bien dans la trajectoire que la chronologie.
Mmh. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, dans la curiosité, on a les deux maillons de la chaîne. Il y a l'ingénieur Emmanuel Bocry, ingénieur à Météo France, et le monsieur météo d'RTL, Louis Baudin. Quelles informations vous donnez, Emmanuel Bocry, à Louis Baudin pour qu'il puisse travailler et faire ses bulletins?
Ça m'intéresse.
Comment vous bossez l'un avec l'autre, en fait?
Bah, on travaille. D'abord, nous, je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe de prévision qui travaillent, qui sont en permanence 24 heures sur 24 en train de travailler. Donc pour Louis, entre autres, nous lui fournissons tous les jours ce qu'on appelle des cartes nébules. Vous imaginez une carte de France,
oui.
Sur laquelle on a fait des zonages avec un certain nombre de pictos qui décrivent le temps qu'il va faire. Il y a des listes de température, il y a plein d'informations sous forme observée ou prévue. Mais on rajoute en plus, et ça qui est très important, de l'imagerie satellite, de l'imagerie radar. Alors ça, ça se voit pas à RTL, mais c'est très important parce que comme ça, ça permet à lui de bien voir la situation, de bien la comprendre et surtout de rajouter quelque chose, expliquer le phénomène, expliquer comment tout va fonctionner.
Mais d'ailleurs, Louis, et je vous écoutais ce matin avec Yves Calvi, en temps réel, voilà, vous avez la carte qui se réactualise.
Là, on aurait pu l'afficher, effectivement. Ouais. Hein, on peut le voir si on est filmé. On a effectivement en direct. Moi, quand je suis arrivé à RTL, j'avais mis dans les conditions de ma venue d'avoir ça. C'est-à-dire d'avoir dans tous les studios accès aux informations en direct que pouvait nous donner Météo France. Donc c'est observation, satellite, radar, pluie, neige, et ça nous permet d'être très interactif par rapport à nos auditeurs pour leur donner l'information la plus pertinente et la plus fraîche possible.
Mais alors c'est une information sur la France ou ça va jusqu'à chaque ville? On sait exactement le temps qu'il fait dans les villages, dans les villes de France, Emmanuel Bocry.
Alors en général, ce que l'on fait, on fait une vision globale sur l'ensemble de la France. Sur quand on prend les températures, on va donner une cinquantaine de villes, on ne va pas en donner plus parce qu'il y a trop d'informations. Et par contre, pour répondre aux besoins de la radio, on rajoute ce qu'on appelle nous des villes secondaires, c'est-à-dire un certain nombre de villes, parce que nous on prévoit sur les 36 000 communes de France. Donc on ne va pas donner 36 000 communes à l'antenne, ça serait invivable. Et on offre un panel qui permet à Louis d'aller chercher l'information qu'il a envie de mettre en avant ce jour-là.
Comment vous faites, Louis Baudin? Parce que quand on entend le nom de notre ville, moi je sais que mes parents habitent Dinard, je suis contente quand vous prononcez le mot Dinard, tout le monde est un peu à l'affût du nom. Vous faites un tableau comme ça pour vexer personne et dire là j'ai parlé de telle et telle ville aujourd'hui.
Faut que j'équilibre.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Et malheureusement, effectivement, pour des raisons climatologiques, pour des raisons de répétition, de circulation haute, il y a des villes qui reviennent un peu plus souvent que d'autres. Mais en fait, c'est la situation météo qui commande. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il y a une particularité météo ici ou là. Ce matin, par exemple, ça se passait effectivement dans le nord-est où on avait encore un peu de neige en Alsace. Bon, on a un peu plus souvent cité l'Alsace, la Lorraine, un peu moins d'autres régions. Et ça peut s'inverser au gré des situations météo. Donc, c'est vraiment la météorologie qui conditionne les villes que l'on va citer. Par exemple, le verglas qui était signalé ce matin du côté de Bolbec en Seine-Maritime. Mmh. Ben voilà, on a insisté sur la Seine-Maritime parce que là, il y avait un phénomène dangereux et que c'était vraiment important de le signaler.
Emmanuel Bocry, vous parliez des ingénieurs, de tous ceux qui travaillent avec vous. Hein, oui. Vous n'êtes pas tout seul. Évidemment, vous êtes combien, tiens, d'ailleurs, à Météo France?
À Météo France, on est 3000 personnes. 3000 et personnes. On perd chaque année 100 personnes. C'est dans le cadre d'AP 2022, les restrictions du nombre de fonctionnaires. Mm-hmm. Donc, on s'adapte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les prévisionnistes, on travaille 24 heures sur 24. On travaille 12h15. De nuit, 12h15 de jour, pour avoir une surveillance permanente du temps et pouvoir fournir en permanence l'information météo.
Et c'est où Météo France d'ailleurs, en France?
Alors Météo France, on est un peu partout, je dirais. Ouais. Alors vous avez le siège social qui est à Saint-Mandé, pas très loin de Paris. Par contre, vous avez le centre le plus important qui est Toulouse, qui est le centre national. Vous avez là les supercalculateurs, le centre de prévision nationale, vous avez les archives climatologiques, l'école de la météo, parce qu'on apprend à faire de la prévision météo. Et par contre, on est un peu partout dans le monde. Sept gros centres en France, mais aussi dans les dom-toms. Nous sommes aussi dans les endroits perdus comme la Terre Adélie ou Kerguelen, La Réunion, Antilles-Guyane, tous ces endroits-là. Vous avez des météos localement qui travaillent.
Bon, et vous savez quoi, on a Louis Baudin, on a un ingénieur de Météo France. On va vous dire le temps qu'il va faire dans 4-5 jours et si Elena va nous causer des soucis. Allez, à tout de suite sur RTL.
RTL.
Bon, vous traduisez exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. On discute pas météo. Météo !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis au service météo de France et toutes ces filles sur qui je me penche, ce sont des clones, ce sont des typhons.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah ben, retour d'expérience directe avec notre invité qui est ingénieur à Météo France, Emmanuel Bocry. Les Miss Météo à Toulouse, il a raison Claude François? Je me penche sur les Miss Météo, etc.
On aimerait bien, non, on n'a pas trop de Miss. On a des femmes météo.
On peut se pencher sur les Mister Météo
mais bien
aussi,
sûr, regardez. Mais, sauf que c'était les paroles
Louis Baudin.
C'était les paroles de la chanson de Claude François. Forcément, c'est un peu daté. Tiens, à Toulouse, je ne me rends pas compte, 3000 personnes, c'est une petite ville, ça ressemble à quoi?
Toulouse, ben, il faut imaginer une espèce de petite ville. Vous avez des bâtiments, il y a des petits immeubles pour dormir, il y a un grand centre de restauration et vous avez un énorme bâtiment qui est blindé dans lequel nous avons notre calculateur. Alors blindé aux ondes électromagnétiques, mais aussi aux intrusions, parce que dessus tournent nos modèles numériques qui servent à prévoir le temps. Mmh. Et je rappelle que ces modèles-là servent aussi aux militaires.
Et vous êtes autonome?
On est complètement autonome. Le site de la Météopole à Toulouse, qui est sur l'ouest de Toulouse, est complètement autonome en énergie.
Donc s'il y a une coupure d'électricité, par exemple, vous débrouillez bien ?
Nos calculateurs tournent toujours, on a toujours du courant. On avait un site stratégique.
Ça vous est déjà arrivé ?
C'est arrivé il y a quelques années, ouais. Mais heureusement, ça ne se reproduit pas.
Donc, il y avait Toulouse dans le noir, sauf Météoville, quoi.
La métropole qui était éclairée.
Louis Baudin, donc Gabriel, c'est de l'histoire presque ancienne, mais voilà que ce profil. Elena, qui est cette tempête ? Qu'est-ce qu'elle nous réserve ? On est quoi, à quelques jours de son arrivée ?
Oui, alors elle va arriver, mais elle va être quand même, a priori, moins efficace, ou en tout cas moins forte que la précédente, même si on est en situation hivernale, donc c'est un peu normal qu'on ait ce genre de phénomène là aussi.
Les Québécois ne se moqueront pas de nous, on ne sera pas en panique.
Un peu moins, on ne sera pas en panique, mais on va retrouver les mêmes ingrédients, on va retrouver temporairement des vents assez forts, c'est un peu moins violent, tout sera un peu moins violent que ce que l'on a connu, de nouveau un petit peu de neige en plaine, beaucoup de neige en montagne, donc les mêmes phénomènes avec probablement des chaussées glissantes, avec des phénomènes de gelée, donc on va retrouver la même chose pendant ce week-end, tout au long du week-end, on va rester sous l'influence de cette nouvelle dépression.
Emmanuel Bocry, comment concrètement sur le terrain vous captez des informations dans l'air, le ciel, le sol, je ne sais pas, pour pouvoir faire mouliner vos logiciels et donner des infos à Monsieur Météo d'RTL?
Alors c'est de façon très simple, on va d'abord mesurer depuis le sol, donc on a ce qu'on appelle des abris météo, vous imaginez une petite cahute en bois ou maintenant en plastique blanche dans lequel vous avez des capteurs, donc c'est des sondes qui mesurent la température, la pression, l'humidité. On a des pluviomètres, c'est une espèce de seau qui recueille la quantité d'eau qui tombe. On a aussi en général un mât en haut duquel il y a une girouette et un anémomètre. Ça nous donne la vitesse et la direction du vent. Ouais. Donc ça, c'est les observations de sol.
Ça, c'est où tout ça ?
C'est un peu réparti un peu partout en France.
On peut les voir, nous, quand on se balade.
Ah, si jamais vous roulez sur le long de l'autoroute, quelquefois on envoie des petits abris météo. Mmh. Quelquefois, on l'envoie à peu près tous les 20-30 km. C'est assez classique.
Mais ça ne suffit pas. Vous envoyez des ballons dans le ciel.
Alors, on envoie régulièrement toutes les 12 heures des ballons sondes. Donc, vous avez un site de lancement qui attrape en région parisienne. Ouais. Le ballon sonde va traverser toute l'atmosphère, va nous faire une coupe verticale. On va nous indiquer comment évolue la température, l'humidité et le vent selon la verticale.
Mais ça ressemble à un ballon de baudruche, à une golfière.
C'est un ballon baudruche qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 au décollage et qui, quand il va exploser aux alentours d'une trentaine de kilomètres d'altitude, rentre pas dans cette pièce. Il doit faire de 10 à 20 mètres de diamètre. Donc il explose, il retombe. Mais en réalité, pendant toute la montée, il nous a transmis en permanence les informations. Alors ça, c'est les informations, je dirais, traditionnelles. Il y en a une autre. Ce sont les radars météorologiques qui tournent en permanence. Au lieu de repérer les avions, là, on repère les pluies qui sont en train de tomber au sol. Mmh. Et dernier point, très très important pour nous météo, c'est les satellites qui ont une vision vue du dessus de l'atmosphère. Et là, ils observent 24 heures sur 24 l'atmosphère. Donc vous voyez ces images en général à la télévision le soir. Mais ils font aussi une autre opération très importante pour nous. Ils font ce qu'on appelle un sondage vertical. C'est-à-dire qu'ils vont explorer verticalement au-dessus d'eux comment se trouve l'atmosphère. Donc ça nous donne une autre vision verticale. Alors, ça complète la vision du ballon sonde. Le ballon sonde est très précis dans les basses couches, alors que le satellite est très précis dans les hautes couches. Et aujourd'hui, on considère que dans nos modèles numériques, les données d'observation qui rentrent dedans pour faire tourner la prévision, c'est plus de 80% viennent du satellite. Donc si on perd les satellites, on aura des gros soucis de qualité de prévision.
Louis Baudin, ça fait combien d'années que vous faites de la prévision météo ?
Ça fait 35 ans maintenant.
Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en 35 ans, la précision est devenue assez exponentielle.
Assez exponentielle. Moi, quand j'ai commencé, je disais, je suis météorologue. Et souvent, on me regardait avec un petit sourire en disant, mais c'est un métier, ça ? Mais vraiment, je me souviens, je me disais, voilà, est-ce que j'ai bien fait le bon choix là ? Est-ce que... Tellement... Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai commencé à travailler à la station de Marseille. Ces ports où on faisait la protection pour les navires, faire une bonne prévision de Mistral à 24 heures, je me souviens, on était contents quoi, de ne pas se tromper. Aujourd'hui, on se rend compte que même si on fait encore quelques erreurs, on est beaucoup plus précis sur les prévisions de vent, sur la prévision de neige.
Mais grâce à quoi ? Au logiciel ?
À tout ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire les observations qui se sont multipliées, parce qu'effectivement, ces observations terrestres, il faut ajouter maintenant qu'on a équipé les navires de stations automatiques pour avoir des choses sur la mer. Mmh. On a donc les satellites de plus en plus performants qui passent sur les pôles également, les avions de ligne maintenant qui sont eux aussi équipés pour pouvoir en permanence donner des informations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mieux on connaît le temps qu'il fait, mieux on fait une prévision efficace. En tout cas, ça semble être assez logique en corrélation. Donc plus on a d'informations, plus on va pouvoir les injecter dans l'ordinateur. Là, on applique toutes les lois de la physique que l'on connaît, et ça nous donne une prévision. Donc, plus on est performant dans l'observation, plus les calculateurs sont performants, plus les satellites, et Emmanuel vient de le dire, c'est maintenant une source énorme et fondamentale d'observation, plus on arrive à faire progresser la prévision.
Et c'est vrai aussi que quand il y a des catastrophes comme les inondations dans l'Aude il y a quelques mois, on se pose toujours la question de comment faire encore mieux, comment améliorer la prévision, comment prévenir les populations. On va essayer de répondre à cette question. On nous avait parlé d'un super calculateur. C'est quoi? Réponse à venir sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Demain, il fera très très chaud du côté de Nancy.
Non.
Brest?
Non.
Strasbourg?
Non plus.
Lille? Lyon? Quimper? Marseille?
Ouais, c'est ça.
Yes!
La curiosité est un vilain défaut.
Et demain, nous perdrons 2 minutes de soleil.
RTL.
C'est pas ce qu'on en a fait. C'est sûr que si on les rangeait...
It's raining, man. La météo ou presque du Palmacho sur RTL. Heureusement qu'avec nos invités Louis Baudin et le prévisionniste, ingénieur prévisionniste Emmanuel Bocry de Météo France, nous, on est plus fiable, mais tout aussi drôle, hein, faut quand même le dire. Tiens, on voulait parler de ce super calculateur dont on avait entendu parler, une promesse du gouvernement, me semble-t-il, à la suite des inondations en octobre dernier dans l'Aude. De quoi s'agit-il?
Il s'agit en fait d'être capable de faire de plus en plus de calculs. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Plus on va pouvoir affiner l'observation, on en parlait tout à l'heure avec plein de moyens. Imaginez qu'on soit à l'échelle d'un département, je vais caricaturer un petit peu, et là aujourd'hui, on va sur ce département mettre un énorme cube. C'est cubes-là, on en répartit partout dans le monde, et dans chaque cube, on donne des observations. On va mettre une température, on va mettre une pression, et autres, et on va regarder, avec toutes les équations, comment ce cube évolue en matière de température. Comme ça, on va pouvoir dire dans 3 heures, il fera telle température, tel vent, 6 heures, 12 heures, et on va comme cela à 24 heures. Mais si ce cube, on le divise, d'un seul coup, dans ce cube, on va mettre des plus petits cubes, dans lesquels on va pouvoir de nouveau dire, la vraie température, c'est celle-là, puis celle-là. Oui, mais vous multipliez les calculs par combien? Si vous regardez, si vous faites un peu d'équation, c'est par 8, c'est par 16. Donc ça veut dire que d'un seul coup, votre calculateur aujourd'hui qui est capable d'intégrer le petit cube, il va pas pouvoir intégrer cela. D'où cette idée d'avoir des calculateurs de plus en plus puissants. D'accord. Pour pouvoir rentrer ces petits cubes dans les calculateurs et espérer à la sortie avoir une précision qui soit un petit peu meilleure.
Presque ville par ville, village par village, anticiper sur les épisodes les plus violents.
Emmanuel, je pense, me confirmera l'idée. C'est plus d'être à l'échelle du département, mais d'être à l'échelle d'une vallée. C'est déjà important. Déjà sur un épisode Cévenol, on pourra dire c'est plutôt Montpellier que Sommières ou que Nîmes. Vous voyez, voilà la précision qu'on essaye. Attention, c'est pas encore garanti, mais qu'on espère trouver dans les prochaines
Emmanuel
années.
Emmanuel Bocry, ce qui est intéressant aussi, c'est que la météo, c'est pas seulement pour savoir comment on s'habille, si on met des chaînes sur les roues. Vous avez des clients énorme. Faites tourner la France, on peut le dire.
On fait tourner tout le monde. Je dirais le premier client, c'est la sécurité des personnes, c'est bien. Donc c'est la vigilance météorologique, c'est de prévenir les gens. Attention, il y a une tempête qui arrive, attention, il y a un épisode qui peut être dangereux. Ensuite, un des deux gros clients auxquels on pense, c'est les armées. Les armées, quand ils interviennent quelque part, ils ont besoin de connaître le temps. Je rappelle que le débarquement du 6 juin a failli rater à cause d'une tempête. Ne l'oubliez pas. Ensuite,
Louis l'a raconté dans un livre, quand la météo fait l'histoire.
Mal prévu par les Alliés, bien prévu par les Allemands, ce qui a créé le club.
Il y a aussi, après, il y a un client très connu, parce qu'on a la météo a pris naissance avec ce client, c'est l'aéronautique. Les avions ont besoin d'avoir du beau temps pour pouvoir décoller et atterrir. Et aussi, bien évidemment, si le vent les pousse, ils consomment moins de carburant, ou ils en consomment plus, s'ils ont le vent dans le nez.
Et puis, il y a un client auquel on pense moins, c'est EDF. EDF, l'énergie, pourquoi?
L'énergie, c'est de façon très simple. Si par exemple, la température sur l'ensemble de la France tombe de 1 degré, c'est rien du tout 1 degré, ça équivaut à la consommation. Les gens vont mettre leur radiateur électrique, vont chauffer, donc il va falloir de l'énergie. Ça équivaut à une tranche de centrale nucléaire supplémentaire. Donc, vous comprendrez bien que EDF est très intéressé de savoir comment on prévoit l'évolution des températures pour pouvoir anticiper la consommation électrique. Ce que je dis pour l'hiver est valable maintenant aussi pour l'été. S'il fait trop chaud, les gens mettent des climatiseurs et ça consomme beaucoup d'énergie.
Et ça, c'est au niveau européen, Louis, c'est ça? Il y a des échanges?
Et oui, parce que là, encore une fois, la météorologie n'a pas de frontières. Donc, le froid qui est là, par exemple, Gabriel a dit quitter la France, mais on est très égoïste parce que pour l'instant, il est en Allemagne avec là aussi des conséquences importantes. Et donc, là aussi, il faut voir comment est-ce que les besoins se répartissent d'un pays à l'autre. On sait que la Belgique, par exemple, aujourd'hui, a besoin de notre énergie. Ils l'ont clairement annoncé pour des raisons écologiques. Ils vont effectivement fermer des centrales qui polluent énormément. Mais en contrepartie, est-ce qu'on est prêt à les aider? Est-ce qu'on est prêt à leur apporter cette énergie? Et donc la gestion dépasse largement nos frontières pour rééquilibrer les déficits ou les manques que la météorologie pourrait apporter ou au contraire impliquer dans certains pays. Oui.
Emmanuel Bocry, aussi les organisateurs de grands événements sportifs qui ont besoin de vos prévisions pas à 5-6 jours, à la minute même, c'est ça?
Oui, à 5 minutes près. C'est
par exemple
On pense à Roland-Garros par exemple, ou alors la Formule 1, où on prévoit à 5 minutes près, dans la demi-heure qui suit ou dans l'heure qui suit, si la pluie va passer sur le stade ou sur les courts de tennis ou à côté, pour qu'ils gèrent en conséquence les stades. Les courts de tennis, par exemple, on sait très bien qu'ils ont besoin d'un petit peu d'eau, on les arrose de temps en temps, mais pas trop, sinon on va dégrader la qualité du court.
Et on les bâche.
On les bâche, voilà. Donc,
Merci beaucoup, merci. Emmanuel Bocry. Je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France. Et merci, Louis Baudin. On vous retrouve tous
les jours
sur RTL toute la journée. Vous êtes notre compagnon de vie. Et on peut vous lire aussi, notamment, les pourquoi de la météo et quand la météo fait l'histoire. C'est passionnant et c'est chez Albin Michel.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.